C'est d'actualité, Alain Baraton. Ce matin, vous nous présentez les arbres témoins de l'armistice. Beaucoup d'auditeurs pensent que les vers suivants évoquent la Grande Guerre.
Oui, on va parler des arbres enfin, mais effectivement, au début, je voulais faire une chronique parce que je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de préjugés ou d'idées préconçues sur la Grande Guerre, comme le wagon qui est présenté à Rotonde, qui en fait est
c'est
une
pas,
copie.
C'est pas vrai,
et donc, il est vrai que je me suis dit que quantité on a appris quantité de choses. Moi, je croyais par exemple que les vers suivants dataient de la Grande Guerre. Je le dis très honnêtement, les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme, nature berce-le chaudement et la froid. Eh bien, on a
dormeur
tous...
Duval.
On a reconnu le dormeur Duval.
Eh ben, ouais, c'est Rimbaud. C'est la guerre de 1870.
Eh oui, parce qu'il est mort en 1891 et n'a donc pas pu, effectivement, et c'est une évidence, évoquer par ces mots la guerre de 14-18. C'était l'occasion de rappeler à ceux qui nous écoutent que de temps en temps, certains le savaient, mais quantité, j'ai testé ici même dans la maison avant d'en parler, pensaient qu'effectivement, ces vers célèbres faisaient allusion à la Grande Guerre.
Alors, la Grande Guerre a tué des millions d'hommes et parmi eux, trois écrivains qui nous ont légué une œuvre considérable, éternelle.
Comme Guillaume Apollinaire qui décède le 8 novembre 1918 de la grippe espagnole, mais qui est déclaré par les autorités françaises mort au combat. Il écrit un poème bouleversant, sobrement appelé « Arbre ». Entre les pierres, entre les vêtements multicolores de la vitrine, entre les charbons ardents du marchand de marrons, entre deux vaisseaux norvégiens amarrés à Rouen, il y a ton image, elle pousse entre les bouleaux de la Finlande.
Et puis il y a Charles Péguy, il est mort le 5 septembre 1914 à Villeroy, en Seine-et-Marne.
Il avait 41 ans et on lui doit le mystère des Saints Innocents, paru 2 ans avant le tout début des hostilités. Il compare avec un talent hors du commun l'homme et l'arbre.
Alors je cite Charles Péguy, c'est le tronc et la branche, et cette maîtresse racine qui sont faits pour la résistance, qui sont chargés de résister, et c'est la rude écorce qui est faite pour la rudesse et qui est chargée d'être rude, mais le tendre bourgeon n'est fait que pour la naissance, et il n'est chargé que de faire naître, et de faire durer, et de se faire aimer.
Je trouve ça, moi, merveilleux. Autre écrivain, Alain Fournier, qui est, comme on dit, mort au champ d'honneur le 22 septembre 1914. Il n'avait que 27 ans. Il aimait les arbres et les jardins et il en parle magnifiquement dans le Grand Maulne. De temps à autre, le Grand Maulne se tournait de mon côté, puis il regardait par les fenêtres d'où l'on apercevait le jardin blanc, cotonneux, immobile, et les champs déserts où parfois descendait un corbeau.
Et puis on va rappeler que tous les acteurs du 11 novembre sont morts et depuis quelques temps maintenant.
Oui, mais si les hommes ne sont plus, des centaines d'arbres vivent toujours dans la forêt de Compiègne, là où eut lieu la signature de l'armistice. Ce sont eux maintenant les vrais et seuls témoins vivants de l'histoire de la Grande Guerre, comme aurait pu l'écrire La Fontaine, qu'ils vivent 1000 ans et plus.
À propos de Charles Péguy, on va quand même rappeler qu'il a été un peu de tous les bords politiques, Dreyfusard, socialiste, il a fini avec les catholiques et nationalistes également, et ça n'empêche pas qu'il a de belles lignes à lire et vous nous les avez rappelées.
Et si vous le permettez, que Arthur Rimbaud, quand il a écrit Le Dormeur du Val, n'avait que 17 ans.
Alain Baraton, vos conseils aux questions des auditeurs de France Inter. Georges vous demande, Alain, est-il exact que les guerres ont favorisé l'implantation des buddleias?
Eh oui, le buddleia, également appelé arbre à papillon. On l'a d'ailleurs surnommé à une époque l'arbre des bombes, parce que le buddleia est un végétal originaire de Chine. Le premier exemplaire de mémoire a été planté en Angleterre en 1890. Et le buddleia est un arbuste qui aime bien les terres un petit peu travaillées, les terres un petit peu rocailleuses, les friches, les terrains désaffectés. Et effectivement, quand il y a des bombes, eh bien la terre est bouleversée, les parties non productibles sous terre apparaissent en premier plan et rendent difficilement toute production, j'allais dire horticole ou agricole. Eh bien le buddleia, ça lui convient parfaitement. On dit même que les buddleia sont apparus en Bretagne lors de la Seconde Guerre mondiale, mais oui, effectivement, les Anglais ont choisi le coquelicot comme symbole de la guerre, parce que les coquelicots apparaissaient ou réapparaissaient sur les champs de bataille après les bombardements. Il en est de même pour le buddleia.
Agnès vous demande ce que vous pensez du sulfate de fer pour éliminer la mousse d'une pelouse.
Je suis admiratif. Lorsque j'ai commencé mon métier il y a très 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 longtemps, on recommandait pour démousser l'emploi du sulfate de fer. C'est très efficace, incontestablement. Oui, le sulfate de fer tue la mousse sur la pelouse. Le problème, c'est que le sulfate de fer acidifie la terre et que cette acidification, que fait-elle? Elle encourage le retour de la mousse. En un mot, moins il y en a, plus il y en a. moment-là. Donc effectivement, on n'utilise pas de sulfate de fer pour démousser, ça ne sert à rien.
Eric vous dit que malgré la pluie revenue, son gazon peine à reverdir. Mais pourquoi donc ?
Parce que les plantes sont entrées en dormance. Même le gazon, en automne, se repose. Vous remarquerez qu'on le tond beaucoup moins, même on ne le tond plus du tout, parce qu'il n'est plus en mesure de pratiquer la photosynthèse. La photosynthèse, c'est une action complexe qui se pratique avec le soleil, la lumière et le gaz carbonique. Moins de lumière, moins de soleil, moins de photosynthèse. Et quantité de plantes, même qui gardent leurs feuilles en hiver, même les conifères, amorcent un repos végétatif. Comment voulez-vous que la plante puisse à nouveau se reverdir, se développer, si on arrive à l'automne? Donc le problème, l'été a été particulièrement sec, le début de l'automne également. On peut se demander si le gazon aura le temps, effectivement, de reverdir avant le printemps 2019. J'ai encore un doute à ce sujet.
Michel vous demande s'il est vrai de penser que certains conifères perdent leurs feuilles, je dirais plutôt leurs épines, en automne.
Oui, les épines qui sont botaniquement d'ailleurs des feuilles. Il y a 3 conifères à ma connaissance, mais peut-être vais-je en oublier, qui perdent leurs feuilles à l'automne. Bien sûr, le cyprès chauve, d'où le nom chauve, le mélèze et le metasequoia glypstroboibes. Je vous demanderai pas de l'écrire.
Non, je vais éviter ça.
Mais c'est un conifère magnifique.
Un conseil pour terminer.
Les jardins parisiens d'Alphand, de Sylvie Depont, Bénédicte Leclerc, Éric Bury, c'est publié aux éditions Duchesne, 35 €. La préface est signée Stéphane Marie. Stéphane Marie, que l'on connaît tous pour l'émission
Silence,
que l'on embrasse, parce qu'il a été fait hier par Bernard Cazeneuve, un grand jardinier d'ailleurs, qui n'a pas été qu'ancien Premier ministre. Il a été fait chevalier du mérite national, l'occasion de le saluer.
Eh bien, on le salue. Redites-moi son nom, j'allais dire Bernard-Marie, mais c'est pas ça.
Non, Stéphane-Marie.
Stéphane-Marie, c'est exactement.